Mesdames et messieurs, je suis théologue et j'ai souvent le plaisir de m'occuper avec le message de Dieu. Aujourd'hui, mon intervention sera réduite de 15 minutes puisque nous n'avons pas assez de temps. Je vous prie de comprendre que je vais également vous faire écouter quelques musiques. Le cosmos sonore doit donc s'écouler de manière plus rapide. Audio, visio, ergo, sum. On pourrait dire, sur la base d'une citation très connue, l'élément fondamental d'Hildegard, c'est la charité. Et la musique, pour elle, est très importante. La musique touche les couches les plus profondes de notre âme. Et maintenant, je vais essayer de vous donner la musique qui va avec les visions d'Hildegard. Et je vais essayer de vous motiver, de vous laisser emporter par la musique d'Hildegard. Il y a peu, j'ai parlé avec une collègue à moi à l'université. Et elle a dit à la cuisine de nous faire de temps en temps des recettes d'Hildegard. Et on a parlé aussi de la musique et elle ne savait pas qu'il existait des musiques d'Hildegard. Hildegard est convaincue qu'elle est une trombone de Dieu, le son de trombone d'une lumière vivante. Elle a dit une fois, je suis une cithère qui résonne de la plus belle musique et dont la bonne volonté transperce la dureté du cœur. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à jouer à la sitar, mais je ne connaissais pas cette phrase avant. Mais si je l'avais connue, j'aurais fait plus d'efforts. Elle se comprend aussi comme une flûte de la protection divine. Je dois encore vous dire qu'il n'y a pas de figure du Moyen-Âge qui influence notre vie contemporaine comme le fait Hildegard. Ceci est dû aux nouveaux médias. Il y a d'innombrables entrées sur Internet. Et de plus en plus souvent, il y a de nouveaux livres, de livres audio, qui montrent cette fascination d'Hildegard, une des plus grandes femmes du Moyen-Âge. Hildegard était capable de faire plusieurs choses à la fois. Ce qu'on dit de toutes ces femmes qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois, et qui savent mieux le faire que les hommes. Hildegard était guérissante, visionnaire, audiovisionnaire, prophète, scientifique, etc. Elle était abbesse et elle était très courageuse. Elle s'est combattue avec beaucoup d'hommes, avec le clergé. Elle leur a fait la morale et elle était très moderne. Nous le voyons encore aujourd'hui. Elle a dit une fois, elle a dit au clergé, vous êtes une nuit qui émet de l'obscurité. Elle ne s'est jamais laissée intimider. Ce sont des vertus qui restent d'actualité à nos jours. Et vous le savez peut-être que la caractéristique qui... Et la plus connue d'elle, c'est qu'elle a toujours eu une vision d'ensemble. Elle a toujours dit que tout était interlié. Et elle a dit dans un antiphone, « Caritas abundat omnia ». J'ai déjà parlé de sa musicalité. Et on le savait déjà dans la science musicale, mais pas par un très grand public. Ces derniers temps, elle est devenue plus connue. Elle a même, on l'a retrouvée dans les hit-parades. Elle avait cette conviction médiévale que tout le cosmos, les astres et l'univers étaient sonores et qu'il y avait une musique qu'ils avaient leur musique sur leur orbite, qu'ils étaient à la base de notre système de son. Sa compréhension de la musique va bien au-delà de notre compréhension de musique actuelle. Sa musique avait trois parties. De toute façon, ce numéro 3 est très important chez Hildegard. Il y avait la musique terrestre, à savoir la musique, et puis il y a la musique inaudible pour les hommes, la musique sphérique, la musique des anges. Puis il y a la musique humaine, la musica humana, c'est la musique du corps et de l'âme. Et c'est le miroir de l'homme dans son ensemble. Et puis il y a la musique instrumentale. C'est la musique audible, avec la voix ou les instruments. Cette musique audible d'Hildegard est un écho de l'harmonie céleste et c'est une thérapie pour l'homme. Je vais maintenant vous faire écouter une musique qui est très intéressante et qui montre à quel point Hildegard aimait les intervalles de son très audacieux de plusieurs octaves, parce que pour elle, le ciel était en haut et la musique était un écho de l'harmonie céleste.
Feierliches Glockengeläute läutet. Hildegard hat einstimmig.
Hildegard a composé des chants liturgiques dont la voix était le premier instrument. Ceci était pour elle un exemple de l'incarnation. L'homme est une symphonie du corps et de l'âme et le Christ, c'est une symphonie de Dieu et de l'homme. Elle utilise ici le mot grec symphonia. Elle voulait que cette harmonie voulue de Dieu ne soit pas une chose individuelle, mais une chose symphonique. C'est une citation concernant l'incarnation de Dieu. Elle a donc appelé ses musiques la révélation divine. Elle a composé plusieurs œuvres, en tout à peu près 77. Elle a écrit des antiphones, des louanges, par exemple le Magnificat, et puis le Benedictus, des chants de réponse, des séquences. C'est une forme liturgique qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a une séquence qui est utilisée à Pâques, qui sont toujours ajoutées à l'Alléluia. Elle a écrit des Kyrie et des Alléluia. Le jeu des forces. Nous ne savons pas comment ça a été joué, mais on a certainement utilisé des instruments, par exemple la vielle ou l'orgue, qui était l'élément de base pour les mélodies. Nous allons l'écouter tout à l'heure. La musique était donc, selon la compréhension médiévale, un moyen de pouvoir unir l'homme avec le ciel et Dieu. Et ceci montre aussi la position particulière de l'homme dans la création. Elle était donc bénédictine et pour elle les chants grégoriens étaient très importants. Ils constituaient la base pour ses compositions. Pour Hildegard, la musique était un moyen très important pour entrer en contact avec le Créateur et trouver ainsi un chemin vers la compréhension de Dieu. Elle a donc créé une théologie de musique. Sa musique touche les couches les plus profondes de l'âme humaine, si celle-ci peut s'ouvrir à cette musique. Ses visions et ses auditions étaient donc animées par Dieu. Elle se sent en contact avec le monde divin. Nous allons maintenant écouter un antiphone, Caritas abundat in omnia. Cette charité pour le plus grand roi doit être comprise dans le contexte contemporain, de l'époque, pardon. Hildegard avait fustigé son époque où on avait oublié la vertu de la modération et la foi n'était pas très importante non plus. Elle était convaincue de la toute-puissance de la création de l'homme, de cet amour divin, la charité. Mais qui est donc ce Dieu d'Hildegard? Sa compréhension de Dieu était marquée par la Bible et la liturgie, ainsi que par les chorales, les prières. Et c'était plutôt normal puisqu'elle était bénédictine, c'était ce qu'elle faisait au quotidien. Je vais maintenant vous montrer trois exemples qui ne viennent pas de son époque, mais qui sont sur la même ligne de pensée. Au début, il y a, selon Hildegard, l'étonnement. Nous sommes heureux quand nous voyons l'étonnement des enfants, quand nous voyons leurs grands yeux. Pour elle, ce n'est pas ce que nous avons appris qui est le plus important, mais l'expérience intérieure. Et c'est ainsi qu'elle écoute à la voix de son interlocuteur divin. Pour elle, la compréhension et la pensée sont importantes, mais pour elle, la gratitude et le chant sont encore plus importants. Elle ne va pas au-delà de ce qui peut être dit par l'homme, mais ses images sont très parlantes. Il s'agit là d'une citation qui ne peut pas être traduite en simultané.
Zu verwirklichen. Im Bild Gott als Architekt des Kosmos.
Pour elle, Dieu était l'architecte du cosmos. Il a créé donc la terre, le soleil, l'homme. Ce Dieu créateur, nous le voyons ici sur l'image, et il roule le cosmos devant lui, le mesure et le forme. C'est un langage très illustré et ça me fait rappeler une image qui se trouve dans mon bureau à l'université. Il nous a créés à son image. Et j'ajoute pour que nous nous alignions sur lui. Et puis la troisième image, Dieu comme organisateur qui a créé le tout. Il bénit ici Adam qui est enfoncé dans la terre. Adam tourne son regard vers Dieu. Il a des cheveux blonds. Il ressemble à un garçon. Et la couleur rouge symbolise le feu, d'où vient l'énergie et tout ce qui est précieux. C'est une pensée tout à fait contemporaine. Selon Hildegard, il faut observer la création, la terre. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut comprendre le secret divin. Nous allons maintenant écouter un autre antiphone. Et j'espère que nous pouvons peut-être comprendre un peu ce que je viens de dire.
Von Hildegard können wir nicht nur.
Nous pouvons apprendre d'Hildegard ce que cela signifie, l'écoute, et également ce que cela signifie, l'étonnement, et voir dans l'étonnement. Elle nous apprend et elle nous incite à voir de manière très attentive, et elle veut dire que nous devons voir l'ensemble. Nous pouvons aussi intégrer Hildegard dans le contexte de notre vie. Nous ne pouvons vous plus voir et laisser parler votre cœur. C'est le graveur sur bois qui a dit ça. Les hommes avaient peur et ont donc préféré de ne plus rien voir, de ne plus rien dire. Monsieur Grieshuber voulait rétablir ce lien rompu entre l'œil et le cœur. Son image, l'œil du cœur, nous incite à vivre avec nos yeux et avec notre cœur. Cette image montre une forme humaine où le cœur ne se trouve pas à sa place. Est-ce qu'il s'éloigne ou est-ce qu'il cherche sa place? Et qu'en est-il de l'œil? Il a été enlevé de la tête et placé à la place du cœur. Un œil surdimensionné domine donc cette image. Et cette jambe, qu'est-ce qu'elle signifie? L'autre jambe est très élégante, dynamique. Puis les mains cachées ne peuvent plus rien faire. Et le couvre-chef laisse place à plusieurs interprétations. Cette image nous pose la question de savoir quel est l'objectif, le but de la vie. Si nous voyons avec notre cœur, nous serons des visionnaires du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cette miniature. Et si une illuminateuse ne veut pas minimiser, elle peut très vite atteindre les frontières de ce qui peut être présenté. Ça vient du Civias et c'est une des miniatures les plus audacieuses qui ont été faites des visions d'Hildegarde. Il est très simpliste, cette image, et il essaye de représenter la Trinité. Au centre, nous voyons une forme plutôt féminine, un symbole de Sophie, la sagesse de Dieu. Dans ses visions, Hildegarde a vu l'entrée du grand féminin à travers la figure de Sophie. Hildegarde était marquée par l'Église patriarcale et ce grand féminin venait donc plutôt de son inconscient. Hildegarde a toujours souligné qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se révèle à travers des écrits, à travers le cosmos et qui se révèle à nous sous trois formes. Par le Père, par le Fils et par l'inflammateur du cœur, à savoir le Saint-Esprit. Et cette déesse ne peut pas être séparée, divisée. Mais il est c'est un Dieu en trois personnes. Sa formule est donc Dieu, le Père se révèle par le Fils et le Fils se révèle par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se révèle par l'incarnation du Fils. Nous connaissons aussi cette citation, le Père soit loué à travers le Fils dans le Saint-Esprit. Il existe aussi un antiphone, Trinitati, Trinité, loué soit la Trinité, que nous allons écouter.
Und in immer neuen Bildern wird dieses verbunden sein. Und
ce lien, nous le voyons dans plusieurs images. Le Dieu, c'est l'humide qui ne dessèche jamais. Le Fils est devenu si proche que nous pouvons le toucher. Et le Saint-Esprit, c'est le feu, la force du feu. Avant, nous avons toujours allumé la flamme de la nuit de Pâques avec des pierres. La flamme, elle a trois aspects aussi. Elle donne de la lumière, elle s'enflamme et elle nous chauffe. Pour les gardes, le visuel et l'auditif sont interliés. Et nous voyons ici la sagesse verte. Au milieu se trouve une forme humaine qui représente l'amour et la sagesse de Dieu. La sphère supérieure représente le monde divin. Le blanc, c'est le Père. Le rouge, le Christ. Et le vert, c'est le souffle qui envahit le tout, à savoir l'esprit. La sphère inférieure, c'est la vie terrestre, les quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. La Sophie divine porte un vêtement vert, orné avec des pierres précieuses. Elle fait un geste d'enseignante. Elle écoute et elle regarde. Elle reçoit les tableaux de Dieu. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle maîtresse, d'un nouveau Moïse? Elle n'est pas si stricte que Moïse, mais elle est d'une beauté féminine particulière. Elle fait un geste de communication et elle remplit ainsi le cercle tout entier, la sphère divine et la sphère terrestre. Elle porte un pendentif en quatre parties. Cette figure féminine cosmique représente l'amour et la sagesse. Cette imagination de Dieu, dit les gardes, c'est renforcé. Elle vient de l'imagination de Dieu, de l'Église orthodoxe, du moins nous le croyons. L'illuminateuse a donc pris une Sophie qui est toute vue, toute ouïe. Cela représente l'ensemble de la vie. La Sophie est donc l'axe central de la création tout entière. Ceci est la représentation la plus impressionnante de Sophie, dit Hildegarde. Et nous allons maintenant écouter un autre antiphone où Hildegarde s'adresse à la sagesse verte. Elle décrit la sagesse, une sagesse qui ne discrimine pas.
Diese Antiphon führt uns direkt
cette antiphone nous amène à la charité. Ici, nous voyons une double figure. Les ailes représentent la Sophie, qui est toujours représentée avec des ailes dans l'Église orthodoxe. C'est Sophie qui représente l'amour, qui est comme le Christ. Cette figure de Sophie porte la roue terrestre. C'est donc une trinité du Père, de l'anneau de Dieu, la tête supérieure représente Dieu et la femme qui porte l'agneau, c'est Sophie Marie. Nous allons maintenant écouter un chant de réponse. La force de l'éternité qui fait de l'ordre dans tout. Il s'agit là d'une citation.
Dieser Ewigkeit, dieser Dreiewigkeit gesungen. Wickard hat heute schon vom Kosmosmenschen gesprochen.
Monsieur Wickard nous a déjà parlé de l'homme du cosmos, de cette force fondamentale qui a été créée par le mot. Moi, je vais maintenant vous montrer cette image. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Et j'en viens maintenant à Viriditas, la force de vie verte. Pour Hildegarde, le Christ, c'est la source de lumière verte. Et ce qu'il dit, c'est également vert, la force de vie verte qui fait parler la sagesse de Dieu. Le vert, c'est la couleur de la vie, de la force de vie. Pour Hildegarde, la Viriditas peut se voir dans plusieurs niveaux de vie, dans l'âme, dans le sang qui porte le sang, dans les vertus qui sont les forces vertes de toutes nos actions, dans l'Esprit de Dieu qui est la vie dans toute vie, dans la virilité masculine, dans Marie, la rose verte. Et puis, l'éternité est également verte. Hildegarde dit que la nature doit guérir l'âme et la vérité noblesse, la force verte témoigne également de cette pensée d'Hildegarde. Elle a dû connaître ce doigt vert de Dieu. Elle a déjà intégré la féminité et la force verte. Le mot de Dieu a créé le tout. Le Christ, c'est la sagesse de Dieu qui fait pousser, qui fait fleurir et qui fait pousser les fruits. Saint Paul a également parlé de cette sagesse multicolore de Dieu. Nous allons maintenant écouter un chant de réponse concernant cette couleur verte.
An dieser Stelle kommt man unweigerlich zur Frage.
Ici, nous nous posons la question de savoir comment la viriditas a pu se transformer dans une pratique spirituelle. J'en viens maintenant à ces formes traditionnelles qui sont redécouvertes aujourd'hui. Le mantra, c'est une séquence de mots qui est répétée de manière répétitive. Ces mantras ont toujours été chantés et il s'agit d'une forme de méditation. La force de ces chants est connue depuis toujours. Ce sont des outils. Et ce chant répétitif doit intégrer tout le corps et tout l'esprit pour que nous puissions retrouver la joie de vivre. Celui qui peut chanter avec tout son corps va connaître l'amour automatiquement. Il existe plusieurs formes de mantras. Il existe des formes liturgiques. Dans le Vieux Testament, l'Ancien Testament, je serai comme la rosée pour Israël. Tu me feras reposer sur des pâturages verts. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cep ou vivre dans l'abondance. Puis nous avons la prière de Jésus, très connue, où des mots très importants sont utilisés. Puis il y a les chants taisés qui vont dans la même direction. Dieu suffit.
Ich lade Sie ein zum Mitsingen, wenn Sie das können, gleich mehr.
Je vous invite à vous joindre au chant, si vous voulez.
Eine wesentliche Form der Suche nach Gott ist
une forme essentielle de la quête de Dieu, c'est la prière à travers des chants. Ces chants répétés créent une atmosphère dans laquelle on peut prier ensemble. La pensée fondamentale s'imprègne et tout le monde peut chanter ensemble dans l'attente de Dieu. Il y a plusieurs chants aisés très connus, comme le Laudate Omnes Gentes. Puis il y a des litanies, des chants de réponse avec un chef de prière et la paroisse. Puis des invocations, la litanie de Lorette, très connue, où l'on parle de la rose mystique, etc. Puis il y a la prière du cœur de l'Église orthodoxe qui doit être mentionnée ici. Et les mots les plus importants, c'est Dieu le Fils, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde. Ceci forme un contrepoids à notre air très mouvementé. Il suffirait de quelques secondes pour nous créer une nouvelle base. Et Jésus nous le dit, il nous dit de ne pas prier avec beaucoup de mots. Quelques mots suffisent déjà. Il y a donc plusieurs possibilités de méditation. J'en viens maintenant à la fin de mon intervention. Audio, visio, amo. J'entends, je vois et j'aime. Hildegard nous montre un chemin global vers la compréhension. L'audio et le visio sont inséparables et se retrouvent dans la sagesse de Sophie, qui se retrouve, elle, dans la charité. La musique nous ouvre les portes de notre âme. La musique est grande. Et la musique d'Hildegard nous ramène à une profondeur qui nous permet de vivre depuis notre centre, depuis notre intérieur. Quelle est donc notre tâche? Nous devons fermer la porte à l'ancien pour pouvoir laisser entrer le nouveau. Hildegard nous accompagne sur notre chemin et nous donne du courage à continuer notre chemin. Je vous remercie de votre attention.